Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez sur l'Internet. C'est le premier vendredi de l'été, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Et je suis au courant des choses. Hein. Nous allons lire Matthieu 24, du verset 9 au verset 13. Je perds tous mes petits bouts de papier. J'ai des salutations de la soeur Lucienne et Jimmy, son mari. Ils ont téléphoné tout à l'heure. Le frère Nono a quelques problèmes de dents. Il demande aussi la prière. Que Dieu les bénisse, n'est-ce pas? Amen. Il serait joyeux de pouvoir venir nous voir un de ces jours. Matthieu 24, 9 à 13. On vous livrera à la détresse et on vous tuera, mais vous serez détestés. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes et de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Vous asseoir, mes frères et sœurs. J'ai retrouvé, parce que je triais dans mes bagages, et on a rapporté des tas de choses, et j'avais rapporté pour Alain, c'est quelque chose, c'est ça, en Amérique ils appellent ça, c'est pour les huiles saintes. C'est-à-dire que tu portes ça avec toi, dedans il y a de l'huile, et si tu vois quelqu'un, tu peux l'oindre. Et voilà, je te l'ai rapporté, j'en ai aussi un pour moi. Je te rapporte, que Dieu te bénisse. Je me rappelle qu'il y a longtemps, tu étais tout jeune converti, déjà tu commençais à prier, tu avais prié pour un homme qui était épileptique, n'est-ce pas, qui avait été guéri dans un bistrot. Ça m'est toujours resté que t'étais tout de suite rentré dans ces choses. Voilà, ben, j'ai trouvé que ça serait bien pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous parler ce soir de la fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Jésus sait tout. Il savait très bien que son message allait au fil des siècles être perverti, et que les gens allaient le massacrer, transformer ses paroles, il le savait. Mais il savait aussi que le rétablissement de toutes choses allait venir, hein, il l'avait annoncé, c'était annoncé, les apôtres l'ont annoncé aussi, et donc que son message allait aussi être rétabli. Ça a commencé, il n'y a pas longtemps, mais ça a commencé. Alors, nous sommes dedans, dans ce rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous pensez que notre fidélité le rassure? Est-ce que vous pensez qu'il est inquiet au sujet de notre fidélité? Simone me fait de grands signes, non. A-t-il parfois des doutes au sujet de ce que nous allons faire, au sujet de notre fidélité, si nous allons lui demeurer fidèles ou pas? Est-ce qu'il se ronge les ongles dans son paradis en se demandant, mon Dieu, enfin il ne peut pas dire ça, hein, vont-ils être fidèles? Bon, je vous laisse répondre à la question. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a inspiré, ce qu'il m'a chuchoté. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez, si on sort ce texte du contexte, alors on pourrait faire une doctrine de la persévérance et dire qu'on est sauvé par la persévérance. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Quand on croit au Seigneur Jésus, la Bible nous dit « celui qui croira sera sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, ça implique la persévérance. Les premiers chrétiens, ils persévéraient. Tout de suite, c'est écrit dans Actes chapitre 2, ils persévéraient. Persévérer, la persévérance doit être vissée à nos cœurs, parce que Dieu sait qu'il y aura des moments difficiles, même si ce n'est pas les grandes persécutions avec lesquelles on meurt, parce qu'en ce moment, ben, c'est la paix chez nous, mais ça peut venir, surtout nous qui fréquentons des pays pas très stables, on ne sait pas ce qui peut s'y passer, hein. On a déjà vu un de nos frères arrêté, mis en prison, hein, notre frère Philippe. On ne sait pas ce qui peut se passer. On tremblait, on avait peur, on a prié, on a crié à Dieu. Et puis bon, le Seigneur l'a sorti. Gloire à Dieu. Mais il y a des moments difficiles qui peuvent surgir. Et si on n'a pas cette alliance vissée dans le cœur, cette alliance sacrée de la persévérance, alors on peut être ébranlé, voire même être déraciné. La Bible dit, il y en a qui se décourageront au point de laisser tomber les choses à la fois. Mes frères et sœurs, qu'arrive-t-il lorsque nous persévérons jusqu'au bout, en fidèles disciples de Jésus-Christ? Eh bien, nous pouvons alors regarder le chemin et dire, le chemin parcouru et dire paisiblement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, 7, 8, il disait « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Donc ça le rassurait lui. Notre fidélité n'est pas faite pour rassurer Dieu, mais c'est fait pour nous rassurer nous et aussi rassurer ceux qui nous entourent. Cela rassure le cœur et notre fidélité personnelle rassure nos cœurs devant Dieu. Ça c'est certain. Et nos cœurs sont rassurés même en face de nos accusateurs, même en face de ceux qui nous prêtent de mauvaises intentions. On est rassuré, on se sait tranquille, on se sait fidèle, alors ça va. Se savoir fidèle, c'est être serein au milieu de la tempête, au milieu des problèmes, des difficultés. Et le Seigneur dit, si tu gardes mes commandements, si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle. Parce que persévérer, c'est garder ses commandements. Si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le plus grand don parmi tous les dons que Dieu peut nous faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous donner. Mais le plus grand don, c'est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, au début de cette année, je priais, au début de cette année 2010, et je demandais à Dieu de sonder mon cœur, de me montrer s'il était satisfait de moi, si c'était correct, si tout allait bien. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Oh, vous savez, il y avait un frère à Paris, quand j'étais jeune converti, j'aimais bien aller l'écouter, il s'appelait Bernard Clément. C'était l'interprète de Frère Osborne en français. Et il avait des messages toujours extraordinaires. Et un jour, il y a une sœur qui lui a demandé, « Mais vous dites que Dieu vous parle. Comment vous parle-t-il ? Comment Dieu parle-t-il ? » Et ce frère, Bernard Clément, il a dit, « Eh bien, si vous êtes intelligent, il vous parle intelligemment. Si vous êtes bête, il vous parle bêtement. » Vous voyez, j'en ai entendu des prédications depuis 1968, mais ça m'avait marqué. C'est des phrases comme ça, des fois, qui marquent le plus, des phrases qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Eh bien, ce que le Seigneur m'a répondu là, au début de cette année, c'était aussi un petit peu bizarre, parce que moi, je suis bizarre. Il ne me répond pas bêtement, je ne suis pas bête. Mais il ne me répond pas toujours très, très intelligent, très intelligemment parce que je ne suis pas aussi une sommité dans ce domaine-là. Mais il sait que je suis bizarre, alors il me parle d'une façon bizarre. Il m'a répondu, je n'ai pas été un habile politicien. Si j'avais été un habile politicien, je n'aurais pas donné 10 commandements. Je vous aurais fait 10 suggestions. C'est tout. Mettons, comme disait Camélia, mets ça dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus. Ça voulait dire réfléchis. Réfléchis. Je n'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire, mais j'ai réfléchi. Et mes frères et sœurs, je crois que je suis arrivé au bout de ma réflexion sur ce sujet. Vous voyez, il m'a fallu du temps, on est au mois de juin, le 25. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à être fidèles à des suggestions. Nous avons à être fidèles face à des commandements. Premièrement, les commandements, ils nous viennent de la Bible, de la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous dit ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Et deuxièmement, les commandements dans l'Église de Jésus-Christ, elles viennent par les ministères, par les serviteurs de Dieu qui ont la charge, la responsabilité de l'Église. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu se vexe quand on ne lui obéit pas ? Non. Est-ce que vous pensez qu'il se met à douter de lui-même en se disant « J'ai peut-être été un peu fort, j'aurais peut-être pas dû, c'était peut-être pas le moment de le dire. » Quand on n'en fait qu'à notre tête, est-ce que vous croyez qu'il est un petit peu décontenancé ? Est-ce qu'il se sent frustré quand il constate que ses décisions, ses plans, tout ça, on n'en tient pas vraiment compte ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il sait tout. Par contre, ses serviteurs... ils ressentent tout ce mal-être parce qu'eux, ils ne savent pas tout. Alors, il y a un mal-être. Et c'est la plus grande cause de chagrin, la plus grande cause de stress, voire même de dépression. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en dépression, savez-vous ça ? J'ai été à une pastorale l'année passée à Grenoble et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient dépressifs. Il y a eu même des prophéties qui ont été données pour les encourager. C'est la plus grande cause de chagrin, en tout cas, de voir l'infidélité au commandement donné par la Bible et par les serviteurs de Dieu dans l'Église. Alors, les serviteurs de Dieu, ils n'osent plus commander, alors ils font des suggestions. Voilà, ils font des suggestions. Mes frères et sœurs, ça ne vous est d'aucun avantage. ça ne fait pas avancer l'Église de Jésus-Christ, ni vous, ni l'Église. Paul le dit parce qu'il l'a expérimenté aussi dans son ministère. Il a vécu toutes ces choses, il y a passé, il sait ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi il écrivait à Timothée, enfin à cette époque-là, il disait « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre, qu'ils puissent vous diriger, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Qu'ils puissent vous diriger avec joie et non pas en soupirant, ça vous serait d'aucun avantage. » Ce n'était pas à Timothée, c'était la lettre aux Hébreux, Hébreux 13, 17. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est encore vous, votre fidélité c'est pour rassurer vos cœurs, le fait d'obéir à la parole de Dieu et aux serviteurs de Dieu c'est pour vous bénir vous, c'est tout pour votre avantage. Mais c'est difficile à faire passer ce truc-là, dans le cœur des gens qui ne veulent pas, qui ont décidé de ne pas vouloir. C'est difficile, c'est un petit peu comme si on lit dans la Bible qu'il faut donner la dîme, ah c'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul il dit « je vous ai même pris par ruse ». Enfin que, vous avez vu comment il fait pour qu'il donne? C'est terrible. Mais si c'est Michel Janton qui fait ça, oulala, c'est différent. Et pourtant, Paul était un serviteur de Dieu comme moi, un simple bonhomme. Qu'est-ce qu'il avait de plus? Il avait des grandes révélations, c'est vrai. C'était pour son temps, c'était très bien. Mais c'était un homme avec les gens. Il y a plein de gens qui l'ont méprisé, plein de gens qui l'ont traité de rien du tout. Parce que c'était qu'un homme devant eux, c'était pas Dieu, c'était un homme. Et maintenant, on a fait un dieu de Paul. Il suffit que Paul ouvre la bouche dans la Bible pour dire quelque chose, hop, tout de suite, ah ben c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. Dans notre tête, nous sommes bizarres. Alors nous autres, nous avons fait des alliances avec Dieu. Abraham, le père de notre foi, le père de la foi, il avait aussi fait des alliances avec Dieu. Et ces alliances stipulaient qu'à cause de sa fidélité, s'il continuait, hein, la bénédiction de ses alliances s'étendrait à sa postérité et à toutes les nations. Premièrement à sa postérité, puis à toutes les nations. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a renouvelé cette alliance avec nous, qui avons la foi, la même sorte de foi qu'Abraham, et il dit expressément, « Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui me craignent, et je me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité, jusqu'à la fin. » Je paraphrase, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. « À qui révélerai-je mes mystères, dit le Seigneur? Tous les mystères cachés de mon royaume, depuis les temps anciens, je les révélerai à ceux qui me sont fidèles. Je leur révélerai le bon plaisir de ma volonté, parce que vous faites ce que je vous commande, je vous appelle mes amis. Et à mes amis, je dis tout. N'est-ce pas la vérité? Je leur révélerai le bon plaisir de ma volonté concernant toutes les choses qui ont trait à mon royaume, à ce qui concerne le passé de mon royaume, le présent de mon royaume, le futur de mon royaume. Leur sagesse sera grande, leur intelligence atteindra le ciel, car je les éclairerai par mon esprit. Amen. Le Seigneur vous dit qu'il vous fera connaître par sa puissance les secrets de sa volonté. Les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, pour reprendre l'évangile de Thomas. Mais c'est aussi Paul qui le dit en citant Thomas. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, se réjouir des promesses de la Bible si on ne se sent pas responsable de nos engagements dans les alliances que nous avons faites. Nous nous sommes fait baptiser dans l'Église. Alors, nous prenons part aux alliances que Dieu a faites avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et je voudrais qu'on lise un texte, ça se trouve dans Galates 3, 26-29. Galates 3, 26-29. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Tout revient là, à votre postérité et jusqu'au bout des nations. Les mêmes promesses qui ont été faites à Abraham sont faites pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, etc. Nous nous sommes fait baptiser, alors nous prenons part aux alliances que Dieu a faites avec Abraham. Alors, si nous sommes obéissants, nous hériterons véritablement de ces alliances. Si nous obéissons, nous avons droit à l'aide du Saint-Esprit. Mais que pensez-vous qui va arriver si nous n'obéissons pas? Pensez-vous que Dieu est tenu par sa parole? Non. Il est fidèle, pas à nous, à sa parole. Si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle, pas à nous, à sa parole. Et il n'est pas tenu d'accomplir ses promesses à notre égard si nous ne sommes pas fidèles. Nos familles peuvent être bénies comme la famille d'Abraham a été bénie et nous hériterons la vie éternelle. Et je vous rappelle encore qu'aucune bénédiction ne surpasse cette bénédiction-là, la vie éternelle. Alors nous sommes de ce peuple qui a été mis à part depuis Abraham, un peuple avec des grandes responsabilités, avec des responsabilités divines. La bénédiction qu'Abraham a reçue au sujet des nations, eh bien, elle s'est accomplie à partir du moment où l'évangélisation de toutes les nations a débuté. C'est là que ça a commencé, cette prophétie, cette promesse s'est réalisée. Et notre obéissance au commandement, dans notre temps, elle nous fait entrer dans ce plan de la bénédiction pour les nations, de l'évangélisation mondiale jusqu'à la fin. On a lu encore ça tout à l'heure. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, et cette bonne nouvelle sera annoncée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mais nous avons un des points importants de notre obéissance, c'est le témoignage que nous donnons à Jésus-Christ. Notre prédication, notre témoignage, ce que nous disons, ce que nous vivons, ce que nous faisons face à ce monde qui se perd. Nous avons notre part, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais qu'on prie pour nos jeunes, pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Et je voudrais que nous nous attachions à ça. Vous, les parents, priez pour vos enfants pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, et nous allons organiser un soir ou un jour, je ne sais pas, une réunion spéciale pour prier pour que nos jeunes reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, afin qu'ils soient témoins et qu'ils puissent se fortifier et en parlant langue et ensuite être témoins fort devant le monde. Nous y avons part, parce que cette bénédiction qui était faite à Abraham n'appartient qu'à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, au peuple de l'Alliance, c'est-à-dire au peuple qui obéit, pas au peuple qui s'imagine que Dieu est tenu de faire ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas une question d'imagination, c'est une question d'obéissance. Mes frères et sœurs, le peuple des Alliances doit respecter les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Moi, le Seigneur, je suis lié par ma parole lorsque vous faites ce que je vous dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez plus de promesses. Il n'y a plus de promesses. C'est clair. Il nous faut nous repentir, il nous faut aller sur les genoux, il nous faut supplier Dieu, il faut revenir dans la grâce, il faut revenir dans l'alliance. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une rigolade. Être chrétien, ce n'est pas simplement aller à la réunion, puis pas fumer, puis pas regarder le feuilleton à la télé, et puis pas. Ce n'est pas ça être chrétien. C'est obéir au commandement de Dieu, entrer dans l'alliance et respecter tout ce qui est révélé. En Jésus-Christ, nous avons fait, la Bible nous dit, une nouvelle alliance. En quoi est-ce que cette alliance est nouvelle? Premièrement, elle est nouvelle parce que nous sommes le peuple nouveau. Avant, c'était Abraham, et puis c'était sa postérité. Maintenant, il y a les gens des nations. Cette alliance, elle n'est pas que nouvelle. La Bible nous dit qu'elle est éternelle. Elle est éternelle parce qu'elle est faite dans un sang éternel, dans le sang de Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Elle ne changera pas. Les quatre clés ont été données dans le rétablissement de toutes choses, dans Actes chapitre 2, 38. Ça ne changera pas. C'est une alliance comme ça, et ce n'est pas une alliance autrement. Elles avaient utilisé ces clés dans la première Jérusalem, elles ont été perdues, mais elles nous ont été redonnées pour que nous formions la nouvelle Jérusalem avec la nouvelle alliance. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Les commandements et les ordonnances que notre Père nous a donnés sont pour notre bien. C'est pour notre bien. Si nous sommes fidèles, nous aurons part à jamais aux bénédictions, aux beautés des cieux, aux merveilles de l'univers nouveau que Dieu va créer. Nous serons son épouse pas simplement en disant, voilà, nous sommes promis aux noces de l'agneau, non, 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 nous le serons, et puis Dieu ne divorce pas, nous serons avec lui éternellement, amen, vivant en sa présence, bénéficiant de son amour, de son pouvoir, de sa connaissance, de sa grandeur, de sa sagesse, de sa gloire, de ses dominations, nous serons avec lui. Alors, quelle différence cela fait-il d'obéir de bon cœur plutôt que à contre-cœur? Quand Jésus était sur la terre, il y a un docteur de la loi qui lui a posé une question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus a pris du temps avec lui. On va lire ça dans Matthieu chapitre 22. J'avais mis le verset, le chapitre de côté, puis je m'aperçois que ça a disparu dans les brouillards du Rhône. Matthieu 22, versets 36 à 40. Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Voilà le plus grand commandement de la loi. « De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus veut que nous sachions à quel point c'est important d'aimer le Seigneur et notre prochain. Et quand il dit notre prochain, c'est premièrement ceux de notre famille et l'Église. Avant d'être le petit chinois ou le petit noir de Ouagadougou. Parce que moi, mon prochain, il est là tout proche. Et l'aimer, c'est beaucoup plus pratique d'aimer mon prochain là tout de suite que de dire, oh Seigneur, regarde comme j'aime tous ces gens de Ouagadougou, je ne les vois jamais une fois ou deux par année pour moi. C'est facile d'aimer des gens qu'on voit une fois ou deux par année. Aimer notre prochain, d'aimer le Seigneur et notre prochain, c'est-à-dire, premièrement, les gens de notre famille et de l'Église. Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Jésus répond, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Voilà, c'est pas compliqué, c'est la boucle est bouclée. Alors demandons-nous, pourquoi nous obéissons aux commandements? Est-ce que c'est pour pas être punis? Est-ce que c'est parce que nous voulons les récompenses dans la vie future? Est-ce que c'est par vice, parce qu'on aime bien lécher les bottes de tout le monde, et puis on aime bien, on est un peu servile sur les bords? Pourquoi est-ce que nous aimons? Pourquoi nous obéirions aux commandements de Dieu? Est-ce que c'est parce que nous aimons Jésus-Christ et son Église? Est-ce que c'est parce que nous aimons les servir? Est-ce que c'est parce que nous aimons servir Dieu et son Église? Notre prochain. Alors c'est vrai, il vaut mieux obéir par peur d'être puni que de ne pas obéir du tout. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas dans votre avantage, parce que obéir dans de telles conditions, ça ne vous met pas le cœur en paix, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas bien. Mais nous sommes beaucoup plus heureux si nous obéissons parce que nous aimons Dieu et son Église. La fidélité, c'est bon pour nous. Quand je dis pour nous, c'est bon pour moi. C'est ma fidélité, elle est bonne pour moi. Et pour toi, c'est ta fidélité qui est bonne pour toi. En nous voyant fidèles et obéissants nous-mêmes, nous rassurons notre propre cœur. La fidélité qui est répétée avec la persévérance nous aide à progresser et à devenir semblables, à acquérir le caractère de Jésus-Christ. Alors, les personnes qui ne font rien tant qu'elles ont reçu un commandement, c'était pas écrit au programme. Elles n'ont pas cette assurance dans leur cœur, cette sérénité, cette tranquillité, cette simplicité de joie. Une personne qui garde les commandements à contre-cœur, elle perd déjà sa récompense. Vous comprenez? C'est vrai. Alors mon frère, ma sœur, penses-tu que tu dois toujours comprendre le pourquoi des desseins de Dieu pour être obéissant? Le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, ça sert à quoi? Il y a des gens qui disent tout le temps, ça sert à quoi? Vous n'avez pas remarqué, souvent je dis ça moi, pas pour Dieu, mais pour tout. Pour tout et rien, en rigolant, parce que je trouve que c'est tellement bête. Ça sert à quoi? comprendre, être logique, il faut que ça soit bien carré. Ça, ça honte la dimension de la confiance en Dieu. Tu l'as dit, je le fais, même si je ne comprends pas. Même si je ne comprends pas tout. Quand nous obéissons sans comprendre le pourquoi du commandement, on montre notre confiance d'enfant. Est-ce que vous croyez que le petit Titi, il comprend tout? Pourquoi est-ce que à telle et telle heure on mange, à telle et telle heure on va se doucher, à telle et telle heure on joue au ballon? Et quand on ne veut plus jouer au ballon, ça l'embête, il veut continuer à jouer au ballon, puis nous on dit non. Et il ne sait pas que c'est pour son bien. Et allez lui faire comprendre que c'est pour son bien, il ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il peut comprendre? Est-ce que vous pouvez tout comprendre? Beaucoup de choses je fais par la foi et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi quand je mets mes mains sur des malades, il y a des guérisons? Pourquoi? On ne sait rien, mais je prends le risque de la foi. Amen. Dieu a-t-il besoin de notre obéissance pour savoir si nous avons la foi? Non. C'est juste pour nous. C'est pour notre bien-être personnel. Notre obéissance rassure notre personne. Et surtout dans les moments difficiles, on se dit, bon, j'ai déjà obéi à ça, à ça, à ça, à ça. Je sais que Dieu est avec moi. Il a dit qu'il était avec ceux qui obéissent. Il n'y a pas de problème. Je suis tranquille. C'est bon. Alors que si on se dit, ouais, j'ai un peu biaisé là avec Dieu, on n'est pas en paix. Hein? Nous savons par notre obéissance, mais il n'y a pas que nous. Les frères et sœurs aussi savent et sont rassurés. Pas seulement les frères et sœurs, les anges aussi. Les anges aussi, et les démons aussi. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Vos frères et sœurs ne savent pas. Les anges ne savent pas. Jésus, quand il était sur la terre, il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Il a fallu qu'il retourne au Père pour savoir. Vous comprenez? Alors vous voyez la dimension de la fidélité. Pourquoi nous devons être fidèles? Caïn et Abel ont offert tous les deux un sacrifice à Dieu. Il y en a un, il a offert, il y avait du sang. Ça, c'était la volonté de Dieu. Ils pouvaient le comprendre, puisque le premier sacrifice que Dieu avait fait, c'était du sang. Il y avait du sang. Il avait tué des animaux pour couvrir les parents avec la peau et tout ça. Ils ont cogité. Mais Abel a dit, oh là là, pas Abel, Caïn, il a dit, oh, s'il faut que je prenne une bestiole, tout ça, alors comment je vais faire? Moi, je suis pas berger. Dieu, il prendra les concombres, ça va aussi, les concombres. Il n'aime pas les concombres, Dieu? Voyez-vous, il n'a pas fait dans le plan de Dieu, dans l'idée de Dieu, dans l'inspiration de Dieu. Il n'y avait rien qui était écrit, mais par l'esprit, on peut saisir certaines choses, même si on ne les comprend pas, même si ce n'est pas logique, pourquoi du sang, pourquoi. Mais les anges ont appris quelque chose ce jour-là, c'est que l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices qu'on fait selon nos idées, même si ça nous coûte encore plus cher que le sacrifice de celui qui a vraiment obéi clairement, nettement. Mon frère, ma sœur, il faut que nous veillions à avoir les bonnes attitudes, parce que quand vous avez des bonnes attitudes, ça rassure votre cœur. Ça rassure l'Église qui vous regarde. Ça rassure les anges. Ça déprime les démons. Moi, ça me ravit tout ça. Pas vous, ça me ravit. Vos bonnes attitudes rassureront vos cœurs devant Dieu, rassureront l'Église qui vous regarde, rassureront les anges de Dieu et déprimeront les démons. Quel bonheur! C'est que du bonheur! Alors, tout cela, faisons-le pour rendre gloire à Dieu, pour donner toute la gloire à Dieu. Soyons des gens soumis jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Amen. Merci Jésus de nous aider à bien intégrer cela dans nos cœurs et que nous puissions le sortir comme des fruits et que nos actes soient des actes qui correspondent à ces choses. Que ton nom soit béni Jésus. Merci mon Dieu d'accompagner chacun qui écoute sur Internet maintenant, qui ne se sente pas seul après la prédication, mais qu'il ouvre sa Bible, qu'il médite, qu'il prenne un psaume et qu'il chantonne ce psaume avec une mélodie qu'il invente, qu'il lui sera inspiré tout simplement dans la paix tranquillement et qu'il puisse ainsi mettre son cœur dans la paix, se mettre en ordre et puis aller faire ta volonté dans la simplicité. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen.